ça n'a pas honoré la justice, ce réquisitoire. C'était une espèce de construction qui n'a d'intellectuel que le nom. Je n'ai rien à en dire. C'était un réquisitoire pathétique.
Pierre Lesquiera, un jeune homme qui avait un rêve, celui d'être berger, le berger d'un petit village de l'arrière-pays niçois, Castellar. Mais Castellar, c'était depuis toujours la terre des chasseurs. Pierre Lesquiera n'y a jamais été le bienvenu.
Il m'a dit « je suis condamné à mort ».
Dès l'instant où j'ai vu Pierre abattu comme ça, je n'ai pas pensé à autre personne. C'est eux.
Si c'est pas en tout cas eux directement qui ont tiré dessus, qu'ils disent... puisqu'ils savent.
Castellar, c'est un village qui s'est déchiré autour de la mort du berger. Suspicion, menace, accusation.
C'est difficile aujourd'hui au village de vivre...
Ne me parlez pas du village, s'il vous plaît.
Pendant des années, on leur a dit qu'il était l'artisan de leur malheur.
Je n'ai pas tué. Je suis pas un assassin.
Castellar, c'est aujourd'hui le nom d'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises.
Il n'y a rien de pire pour une victime de se dire que la justice n'est pas passée.
Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme.
Jérôme Vérandeau et son oncle Alain répondent ensemble aujourd'hui devant la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône du meurtre de Pierre Lesquiera, berger à Castellar.
Tout commence le 17 août 1991. Il est 6 heures du matin lorsque Pierre Lesquiera quitte sa maison de Castellar. Il va rejoindre à moto son troupeau dans la montagne. Dans un virage, Pierre Lesquiera ralentit quand soudain, le berger reçoit deux coups de chevrotine dans le dos avant d'être achevé d'un tir en plein visage. Il avait 33 ans. Prévenu par les gendarmes, Francis, son père, arrive quelques minutes plus tard sur les lieux du drame.
Il avait des impacts dans le dos et tout, bon, et la tête complètement éclatée.
Papa, dans la douleur, pris par la douleur, a essayé de ramasser lui-même les restes, a essayé de rassembler les restes de crâne et de cerveau de son propre fils.
C'est Francis qui annonce la mort de leur fils à son épouse.
Il rentre, il était raide, comme un i. Il s'approche de moi, j'étais près du téléphone, il m'enlève les lunettes et il me dit « on nous a tué le petit ».
Immédiatement, tout Castellar sait que le berger est mort. Le village bascule dans le drame. Pour la famille Lesquiera, il n'y a aucun doute. Pierre est tombé dans un guet-apens, victime de l'éternelle rancœur qu'il opposait aux chasseurs. La presse adopte cette hypothèse et évoque tout de suite un règlement de compte. Au village, tout le monde est choqué, mais pas vraiment surpris.
On le sent cette haine de... Il serait venu un autre étranger, peut-être ça aurait marché mieux. Mais.
Et vous pensez qu'on peut arriver jusqu'au crime,
non? Ah, la preuve était là, mon brave. Chose qu'on s'imagine, une chose pareille.
Je suis même étonné qu'il ne soit pas arrivé avant moi.
Pierre Lesquiera avait toujours rêvé d'être le berger de Castellar. Ce village adoré, où il passait toutes ses vacances. Après le lycée agricole d'Antibes, il est parti 2 ans en Afrique, avant de revenir à Castellar.
Il était persuadé que sa vie avait un sens, qu'il avait quelque chose à faire par rapport à Castellar, par rapport à l'Occitanie, par rapport à tout ça.
Passionné, Pierre Lesquiera avait même appris l'occitan, qu'il ne pouvait pourtant parler qu'avec les anciens du pays.
Le maire et mes conseillers m'ont dit que l'agriculture, c'est fini. Voilà, alors, mais des raisonnements comme ça, on ne pouvait pas en aller. Hein. Et puis, d'un autre côté, bon, des jeunes, il n'y a plus que volonté d'être ici en campagne, avec un pays qui est trop difficile pour travailler. Hein.
Pierre Lesquiera installe sa bergerie à Castellar en 1983. Dès le début, une partie du village ne l'apprécie pas.
Il y avait un domaine qui était le domaine des chasseurs et le domaine également du berger. C'était ça le problème.
Rapidement, les incidents se multiplient entre les chasseurs et lui.
Durite d'essence coupée, pneus crevés, abreuvoirs percés, tuyaux d'alimentation aux abreuvoirs coupés en petits morceaux de 50 cm.
Si l'enfer existe, nous l'avons vécu pendant les 8 années qui ont précédé la mort de Pierre.
Malgré tout, le berger s'obstine. Il a bien l'intention de rester toute l'année sur la montagne, y compris pendant la période de chasse. Du jamais vu à Castellar.
Il savait ce qu'il voulait. Et pour lui, être homme, c'était pouvoir s'expliquer, mais ne pas courber les chines.
De leur côté, les chasseurs, emmenés par leur leader Alain Vérandeau, sont furieux. Pas question que le jeune berger vienne gâcher leur plaisir. Dans le village, l'ambiance est délétère. Des chèvres du berger sont tuées, ses brebis sont attaquées par des chiens de chasse. Et ça s'envenime. Car pour rejoindre sa bergerie, Pierre Lesquiera passe devant la maison des Vérandeau avec sa moto.
Il s'est arrêté, il accélérait sa moto pour le chien qui s'est fait l'aboyer. Nous, on était en train de boire l'apéritif et puis ma belle-sœur, malheureusement, elle est morte. Elle est sortie, oh, c'est encore Francis, il fait toujours bouillir le chien, il excite le chien.
Alain Vérandeau avait une fourche crochue, vous savez, les fourches à fumier. Il a essayé d'en donner un coup au père à Pierre, il a un peu touché la jambe. Donc, du coup, le père à Pierre lui a donné un coup de poing.
Et finalement, allez, on revient avec une barre de fer. Bon, et puis, dans la confusion, j'ai ramassé un coup de barre de fer, il m'a fendu toute l'arcade sourcilière. C'était sur le coup de colère. Coup de colère, parce que c'était arrivé, c'est spontané, je veux dire. Voilà, c'est spontané.
Francis Lesquiera porte plainte. Alain Vérandeau est condamné à 15 jours de prison avec sursis. Le maire est au courant de ces tensions, mais n'intervient pas. Les chasseurs sont aussi des électeurs.
Les autres, à force de se sentir soutenus, ils sont sentis des ailes.
Je sentais poindre le drame, parce que les événements qui se passaient gravissaient chaque fois un échelon supplémentaire.
Pierre Lesquiera en est conscient, sa vie est en danger.
Il m'a dit « je suis condamné à mort », donc je lui ai dit « arrête tes conneries ». Je lui ai dit « pourquoi tu dis ça ?» Et il me dit « on m'a condamné à mort, le clan des Vérandeau m'a condamné à mort. Donc si je peux me défendre, je le défendrai, mais s'ils veulent m'abattre, ils m'abattront. »
3 jours avant le drame, nouvelle escalade. Pierre Lesquiera a une violente altercation avec Jérôme Vérandeau, le neveu d'Alain, un adolescent de 16 ans avec qui il était pourtant ami. Jérôme le menace ouvertement. Un jour, je te mettrai une balle dans la tête.
J'ai dit ça comme ça, c'était des paroles. J'ai dit, bon. Et voilà, quoi. Je veux dire, mais ça n'a pas été plus loin, quoi.
Mais pour le berger, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il porte plainte à la gendarmerie pour menace de mort. Sur les lieux du crime, Francis Lesquiera, dans ce climat extrêmement tendu, désigne sans hésiter 6 suspects. 4 sont de la famille Vérando, 2 des amis du clan.
Dès l'instant où j'ai vu Pierre abattu comme ça, je n'ai pas pensé à autre personne. C'est eux.
2 heures après la découverte du corps du berger, Jérôme Vérando, l'adolescent de 16 ans et son père Paul sont tirés du lit et placés en garde à vue. Les suspects ont un alibi. La veille du crime, ils ont organisé une fête qui s'est achevée à 5h du matin. Leur compagne jure qu'ensuite le père et le fils sont allés se coucher et qu'aucun d'eux n'a bougé.
Le matin des faits, je veux dire, j'étais au lit avec ma concubine, quoi. Je veux dire, je me suis pas inquiété du tout. J'ai passé la nuit chez moi, dans le lit, et j'ai été réveillé le matin par les gendarmes, je veux dire.
Après avoir pris soin de faire des relevés de poudre sur les suspects, les enquêteurs relâchent Jérôme et Paul Vérando. Parmi les autres noms donnés par Francis Lesquiera, il y a Alain Vérando, l'oncle de Jérôme, le leader du clan des chasseurs. Il est à son tour placé en garde à vue.
Ça, c'est un tort qu'ils ont eu les gendarmes, que je leur reproche d'ailleurs. C'est d'avoir écouté M. Lesquiera, c'est lui qui a diligenté l'enquête. M. Lesquiera a dit, j'ai 6 noms à vous donner. Allez hop, on va attraper les 6 noms, la nacelle est finie et vous avez l'assassin.
Alain Vérando explique que la veille du crime, il a quitté la fête organisée chez son frère Paul vers 3h du matin. Il est allé se coucher et se serait levé à 7h-10. Sa compagne qui dormait ne l'a pas entendu. Il aurait ensuite apporté du café à ses parents à l'étage, mais ils ne s'en souviennent pas. L'alibi est fragile. Malgré tout, Alain Vérando est remis en liberté. Les gendarmes placent alors les suspects sur écoute. L'un d'eux va peut-être se trahir. Les résultats des relevés de poudre effectués sur les suspects parviennent aux enquêteurs. 4 d'entre eux ont sur les mains des traces de la même nature que les résidus retrouvés sur le corps de Pierre Lesquiera. D'abord, il y a Jérôme et Paul Vérando, mais le père et le fils ont une explication. Lors de la soirée organisée chez eux la veille du crime, ils ont tiré des coups de feu en l'air depuis la terrasse. Il y a ensuite Émile Murator, un ami proche des Vérando, un vieux chasseur en conflit permanent avec le berger. Sa femme est formelle. Le matin du crime, son mari ne l'a pas quitté. Étrangement, ses déclarations semblent suffire aux enquêteurs. Et puis, il y a Alain Vérando, l'oncle de Jérôme. Lui aussi a des résidus de poudre concordants. Il est incapable d'expliquer pourquoi.
Je n'ai pas tiré de coup de fusil. Ni la veille, ni près, ni pendant. Je n'ai pas tiré de coup de fusil. Moi, c'est comme ça. Bon, tant que j'ai de la poudre, j'ai de la poudre, puis c'est tout. Je l'ai chopé à quelque part. Ça, c'est, je nie pas. Mais je n'ai pas tiré.
Des traces de poudre inexplicables. Un alibi fragile. Alain Vérando devient le principal suspect. Le 11 décembre 1991, 5 mois après le crime, il est mis en examen pour assassinat et écroué à la prison de Nice. Pour la famille Lesquiera, c'est loin d'être suffisant.
Je sais qu'il n'est pas seul, on en a trouvé un. Alors quand après on me dit, oh, mais vous savez, nous faites, on en a un, c'est bon, ça suffit. Et non, ça suffit pas. C'est pas un qu'il est faux, c'est tous.
Les gendarmes en sont certains. L'assassin connaissait les habitudes du berger. L'heure à laquelle il partait travailler, le trajet qu'il empruntait et l'endroit idéal pour lui tendre une embuscade.
Il suffisait d'attendre que la moto rétrograde, les tueurs étaient cachés derrière, et puis on tire dans le dos, la moto tombe un petit peu plus loin, et puis il suffit d'achever Pierre d'une balle dans la tête, et puis le meurtre était accompli. Voilà, c'était très très simple.
Un mois après son incarcération, Alain Vérando trouve soudain une explication à la présence de poudre sur ses mains. Il se souvient que le matin du crime, il a utilisé un pistolet à poudre destiné à planter des clous dans le béton. De nouvelles expertises sont ordonnées. Les traces de poudre semblent compatibles avec l'outil. La juge d'instruction remet donc Alain Vérando en liberté. L'homme rentre chez lui et s'installe dans sa nouvelle maison. À deux pas de celle de son frère Paul et de la bergerie dont s'occupe désormais Francis Lesquira. Les deux hommes se croisent presque tous les jours. Au village, désormais, il faut choisir.
On ne pouvait pas être au milieu, c'est ou pour ou contre. Ça, c'est intolérable.
Suivant le clan que vous allez choisir, ben vous serez de toute façon fâché avec la moitié du village. Dans un petit village comme ça, ça fait déjà beaucoup de monde. Donc, on préfère ne pas parler de ce qui peut nous fâcher.
Ça vous regarde pas ? Nous, on sait, c'est tout.
Alors, si vous...
C'est tout.
Mais si vous savez, vous...
Dans le village, les portes se ferment. Peu à peu, l'affaire est enterrée. Le berger semble oublié. Pourtant, Alain Vérando reste mis en examen pour assassinat.
Non, c'était pas fini. Parce que bon, c'est vrai qu'on était tranquille, on sort. Mais il y avait quand même toujours, dire tiens, demain, on voyait les gendarmes par exemple arriver, il y a quelque chose. Ou il y avait un article qui sortait par enchantement, comme ça, de temps en temps, il y a un article qui sort, on s'est rappelé de lui. C'est sûr, vous avez mal au ventre, vous avez mal aux tripes. Hein.
Après 7 ans d'instruction, l'enquête est au point mort. Alain Vérando espère obtenir un non-lieu. Le procureur de la République, récemment nommé à Nice, décide de reprendre le dossier du meurtre du berger de Castellar. Un dossier qui atteint 2500 pages et dont personne n'a jamais fait la synthèse.
J'ai quand même trouvé bizarre d'avoir à reprendre les expertises dans le réquisitoire définitif que j'avais rédigé, qui n'avait été lu par personne.
Pour le procureur, les traces de poudre prélevées sur Alain Vérando ne peuvent pas provenir du pistolet à clous. Et il ne s'arrête pas là.
Je pense que c'était dommage qu'un certain nombre de personnes dans ce dossier n'aient pas été mises en examen.
Mais le dossier a suffisamment traîné. Et Alain Vérando est finalement renvoyé, seul, devant la cour d'assises. Le 6 novembre 2000, le procès s'ouvre à Nice. Tout le monde veut savoir qui a tué le berger de Castellar. Mais l'audience est reportée. La raison ? Les deux experts en traces de poudre sont introuvables. Du jamais vu dans un procès, 3 nouveaux experts sont nommés. Le procès d'Alain Vérando s'ouvre finalement 1 an et demi plus tard. L'accusé offre l'image d'un homme calme, placide, loin de sa réputation de sanguin et d'impulsif.
Lui ne s'exprimera pas. Il restera dans son costume anthracite, dans son box. Il ne dira rien, sauf une fois, interrogé, sollicité par le président, il dira « Je n'ai pas tué le berger ».
L'accusation repose essentiellement sur les traces de poudre retrouvées sur Alain Vérando. À la barre, les nouveaux experts ne peuvent rien affirmer. Le doute s'installe.
1, 2, 3, 5 experts. Pour entendre finalement la conclusion, vous l'avez entendu comme moi à la fin des exposés, que la certitude n'est pas qu'il n'a pas tiré, mais n'est pas non plus qu'il a tiré. Si bien qu'on nous renvoie finalement dos à dos.
Le doute se renforce lorsque les gendarmes révèlent à l'audience qu'ils ont demandé à l'accusé de les aider à porter des fusils lors de la perquisition. Ce qui pourrait expliquer les traces de poudre retrouvées sur lui.
Je ne suis pas très futé, je ne suis pas un enquêteur. Mais on vous envoie dans une maison qui est suspecte. Vous faites porter des armes pour les ramener chez vous, c'est-à-dire à la gendarmerie, mais il y a de quoi se demander si tout le monde a bien sa raison.
Le procès tourne au fiasco. Les villageois de Castellar qui défilent à la barre n'arrangent rien.
Dès qu'une question précise leur est posée, Bon, les uns chevrotent, les autres ont oublié, enfin c'est l'amnésie générale.
Le malaise grandit lorsque la cour diffuse un extrait des écoutes téléphoniques d'Émile Murator juste après le meurtre.
On entend très distinctement la voix d'Émile qui dit « Ah ouais, tu te rends compte de tout ce qui se passe au village, oh là là, c'est terrible, c'est terrible !» Son interlocuteur, sous le choc aussi, on imagine, qui dit « Ah bon ?» Et là, Émile, effectivement, qui dit « Tu sais, moi je sais qui c'est. » Et alors là, silence dans la salle.
Sommé de s'expliquer, le vieux chasseur se tait, obstinément.
Il est certain que le témoin connaît le nom du coupable et ne veut pas le révéler, c'est-à-dire qu'il ouvre toute grande la porte à l'erreur judiciaire.
Étrangement, Émile Murator n'est pas inquiété. Le procès se poursuit. Jérôme Vérandeau, l'adolescent qui a menacé Pierre Lesquiera 3 jours avant le meurtre, vient alors témoigner. Le jeune homme fait mauvaise impression, se contredit. Et surtout, sa petite amie de l'époque, son seul alibi, n'est plus aussi affirmative.
Elle dit « Écoutez, ça fait longtemps, je ne peux pas vous le dire comme ça de manière formelle, évidente. Mais bon, je pense qu'il était là. Du coup, c'est plus une certitude, c'est « je pense ».
Tout a basculé sur moi et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je veux dire, je supporte la chose, mais je veux dire, c'est dur. C'est dur de vivre avec ça, je veux dire. Je ne l'ai pas tué, je suis pas un assassin.
J'étais horrifiée de penser que Jérôme soit désigné comme étant l'exécutant de la mort de Pierre. Parce que Pierre se voulait vraiment proche de Jérôme. J'insiste. Il le recevait à la bergerie.
J'ai toujours fréquenté son troupeau, lui-même, sa compagne, je veux dire. J'étais assez souvent avec lui le mercredi, quoi.
Jérôme Vérandeau, l'assassin du berger ? L'avocat général ne sait plus quoi penser.
L'avocat général va se lever, va dire finalement, j'en ai assez. Depuis 3 jours, il y a des gens qui se succèdent à la barre, qui n'ont pas envie que la vérité se sache. Il emploiera même les mots de sans foi ni loi. Un village sans foi ni loi à 15 km de la Côte d'Azur, c'est inimaginable, mais c'est pourtant ce qui se passe. Et finalement, je demande à ce qu'on arrête tout, à ce qu'on réfléchisse et peut-être qu'on refasse une enquête.
C'est la première fois que j'assiste à un procès pareil. Au bout de 11 ans d'instruction, est-ce que vous croyez qu'il est normal qu'on en arrive là et qu'un magistrat de conscience dise « arrêtons les frais parce que ce n'est pas possible de continuer sur de pareils errements ».
La cour refuse le report du procès. L'avocat général, lui, reste convaincu qu'il y a plusieurs assassins et qu'Alain Vérandeau est l'un d'eux. Il requiert 20 ans de réclusion criminelle à son encontre.
Laure, la fille de Pierre Lesquiera, assassinée il y a 11 ans à la carabine dans son village, sort en larmes des assises des Alpes-Maritimes. Les jurés viennent d'acquitter l'accusé.
Je n'ai pas compris. Laure s'est mise à pleurer. Elle dit, mais c'est pas vrai, mais c'est une mascarade. Et je répétais à mon mari, mais... Et quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je n'entendais plus.
Comment vous allez vivre au village maintenant ?
On se le demande. Mais en tout cas, je partirai pas du village. Ils ne me feront pas partir.
C'était le bonheur. C'était dit que j'étais libre.
Alain Vérandeau acquitté. Les montagnes de Castellar gardent le mystère du meurtre du jeune berger. Aujourd'hui, plus de 25 ans après le drame, plus personne ne veut évoquer cette affaire. Pourtant, la justice a tenté à plusieurs reprises de mettre à jour la vérité. Maître Baudou, comment réagit votre client Alain Vérandeau quand le parquet fait appel de la décision d'acquittement?
L'attitude d'Alain Vérandeau à ce moment-là, c'est une attitude de soumission. Que peut-il y faire?
Donc en attendant ce nouveau procès, sa vie continue dans le village et comment vit-il avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête?
Il essaie de mener une vie normale, mais il faut une force de caractère extraordinaire. Et c'est vrai que je me souviens de moments d'abattement qui se concrétisaient par cette formule, mais quand est-ce que tout cela va finir ?
Une question qui hante aussi les Lesquiera.
Maître Collard, le parquet fait appel de l'acquittement d'Alain Vérandeau. C'est une satisfaction pour eux? Le combat continue?
Mais alors, là, on entre dans un mécanisme psychologique délicat. Dans la tête des parents de la victime, cela accrédite l'idée que le premier verdict a été un verdict injuste.
La famille Lesquiera rentre chez elle, à Castellar. Alain Vérandeau aussi. Quelle est l'ambiance dans le village qui est tout petit?
L'ambiance, elle est cauchemardesque, quoi. On s'espionne, on se surveille, on s'écoute. Les ragots circulent comme des corbeaux. Il y a une ambiance qui est tout à fait effroyable, mais qui est le fait de la justice.
Vous leur avez conseillé de quitter le village?
Oui, à un moment donné, je leur ai conseillé de quitter le village, et je crois qu'ils n'ont pas voulu. Parce que c'est d'abord leur calvaire.
Le 28 mai 2002, un mois après l'acquittement d'Alain Vérandeau, le parquet ouvre une information judiciaire pour assassinat et complicité d'assassinat contre Jérôme Vérandeau. Ses explications embrouillées et contradictoires lors du procès de son oncle font de lui un coupable potentiel. Maître Ginès, votre client Jérôme Vérandeau est de nouveau interrogé. Comment ça se passe ?
D'abord, il est dans l'incompréhension totale parce qu'il estime que sa garde à vue a été levée. Il était acquis pour lui qu'il avait été complètement innocenté dans le cadre de ce dossier. Donc il va revenir presque 12 à 13 ans plus tard devant un magistrat qui va l'interroger sur des faits remontant à 13 ans en arrière.
Quels sont ses arguments? Qu'est-ce qu'il dit?
Ses arguments, c'est toujours les mêmes depuis le début. C'est qu'il est mathématiquement impossible qu'il soit l'auteur des faits, puisqu'il a trois témoins qui l'ont vu à l'heure où Pierre Lesquiera a été assassiné, chez lui, en train de dormir dans son lit. Dont sa petite amie de l'époque, Linda, qu'il n'a plus revue, et était formelle, en tout cas, quand elle a été interrogée en 1991.
Mais il a tout de même des résidus de poudre sur les mains.
La difficulté est là. Jérôme, il dit simplement, j'étais sur la terrasse, quand mon père et son ami ont tiré des coups de fusil, et j'ai voulu tirer, j'ai pris l'arme dans les mains, il n'y avait plus de cartouches. C'est son explication. Par contre, ce qui est sûr, selon le magistrat instructeur, c'est que la veille des faits, la veille de la mort de Pierre Lesquiera, Jérôme Vérandeau a menacé Pierre Lesquiera. Il considère qu'il y a des charges suffisantes.
Le 20 janvier 2004, votre client Jérôme est mis en examen pour assassinat, complicité d'assassinat. Comment est-ce qu'il a réagi?
Je pense que pour la première fois, Jérôme s'inquiète. Parce que la machine judiciaire est en marche et que le magistrat instructeur n'attache finalement aucune importance à ce qui se passe le jour des faits. C'est pour le moins paradoxal.
Malgré les charges qui pèsent contre lui, Jérôme Vérandeau reste libre, sous contrôle judiciaire. Le clan des Vérandeau, jusqu'ici soudé, vole en éclats.
La famille s'est déchirée et puis il fait des choses comme ça. Hein. Je peux plus les voir, moi, je peux plus les voir.
C'est quoi votre conviction ?
La conviction que mon frère est dedans et que d'autres, oui.
Paul, le père de Jérôme, accuse maintenant ouvertement son frère Alain d'être l'auteur du meurtre. Un témoin de premier plan disparaît, Émile Murator, l'ami des Vérandeau qui avait déclaré connaître le vrai coupable, emporte son secret avec lui en juillet 2002. Jérôme Vérandeau, qui n'avait que 16 ans au moment du crime, est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes. Maître Dupont-Moretti, comment réagit Jérôme Vérandeau lorsqu'il apprend qu'il est renvoyé devant les assises?
Jérôme, on est 16 ans plus tard, il a fondé une famille, il a des enfants, il est terrorisé à l'idée de comparaître devant la cour d'assises, parce qu'il ne comprend pas pour quelle raison il a été mis en examen.
Maître Martial, les charges contre Jérôme Vérandeau sont relativement faibles. Comment appréhendez-vous ce procès ?
Connaissant les profonds abîmes de ce dossier, je me dis, attention, le procès, il va être très dur contre quelqu'un qui est mineur au moment des faits, qui a peut-être grandi, mais qui est mineur.
Vous faites part de vos doutes à la famille de Pierre avant le procès ?
Ah, on en discute avec la famille Nesquira. Bien évidemment qu'ils savent que tout ceci est extrêmement fragile, mais ils se disent que le procès va être quelque chose de à ce point vivant qu'on va peut-être parvenir à faire sortir cette vérité et que l'omerta va être cassée en mille morceaux.
Le 2 avril 2007, 16 ans après l'assassinat du berger de Castellar, c'est dans un climat tendu que débute le procès de Jérôme Vérandeau.
Maître Collard, comment se présente Jérôme Vérandeau à ce procès ?
Parfaitement dans le rôle de l'innocent, répondant avec facilité à pratiquement toutes les questions, sauf certaines, parce que l'enquête ne permet pas de le coincer. Le dossier ne permet pas de le mettre en difficulté.
Il a l'air sincère ?
Il va prendre sa défense en main. Il a compris qu'il fallait qu'il se débrouille seul, qu'il ne fallait plus qu'il compte sur le clan, que le clan n'est plus qu'une fiction. Il va donc affronter ce procès seul, il va l'affronter avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination, et avec la certitude que ce qu'il va dire va être cru et entendu.
Quels sont les éléments tangibles à l'encontre de Jérôme Vérandeau auxquels vous pouvez vous raccrocher ?
Jérôme nous raconte une histoire, même si... au fur et à mesure, il la morcelle parce qu'il sent bien qu'il faut qu'il trouve des explications. Et puis, il va dire, de toute façon, moi, vous ne pouvez pas venir me chercher là-dessus, puisque pour cette nuit-là, la nuit où Pierre a été assassiné, mais moi, j'ai un alibi. Moi, j'étais dans une maison, et dans cette maison, j'étais avec ma petite amie.
Sa petite amie est entendue, justement. Que dit-elle ?
Elle confirme, bien sûr, cet alibi. Elle confirme que son fiancé de l'époque ne l'a pas quittée et elle est sûre d'elle. Pourtant, au cours de l'audience, à un moment donné, on sent que les choses peuvent basculer parce que, sous le feu des questions, elle est ébranlée. Et il est possible qu'elle lâche quelque chose. Elle se reprend très vite. Et à partir de cet instant-là, je sens que tout ce qui était fragile devient presque inexistant.
Éric Dupond-Moretti, à la barre, même l'expert souligne la fragilité des expertises.
Oui, la fragilité, c'est euphémique, oui, je le dis, avec un expert qui a perdu pied dans le cours de cette procédure. On a retrouvé des morceaux de scellé un peu partout, ça a été fait n'importe comment, dans n'importe quelles conditions. Et même la façon dont les mains ont été tamponnées, ça n'a pas été fait comme le requiert la communauté scientifique. Et on ne sait même pas si la contamination sur les mains de Jérôme est une vraie contamination ou si c'est une erreur de l'expert. Voilà ce qu'il y a contre lui.
Pendant le procès, Jérôme Vérandeau va s'adresser directement à la famille Lesquira. Qu'est-ce qu'il leur dit ?
Il leur a dit qu'il était innocent. Il leur a dit qu'il les croisait tous les jours, que c'était infiniment douloureux pour lui de voir leur chagrin, qu'il le partageait, mais qu'il n'avait rien à voir là-dedans.
Quelle est la réaction de la famille Lesquira ?
Je pense qu'ils ne veulent pas l'entendre. C'est normal, parce que pendant des années, on leur a dit qu'il était l'artisan de leur malheur.
Malgré l'absence de preuves tangibles, l'avocate générale requiert 15 ans de réclusion. Maître Dupond-Moretti, dans son réquisitoire, l'avocate générale élabore un scénario. Jérôme et Alain Vérandeau sont complices. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Rien. Rien. Ça n'a pas honoré la justice, ce réquisitoire. C'était une espèce de construction qui n'a d'intellectuel que le nom. Je n'ai rien à en dire. C'était un réquisitoire pathétique.
Vous vous souvenez des arguments que vous avez développés dans votre plaidoirie ?
La vacuité du dossier. Total. totale vacuité du dossier. Je ne sais pas comment et pourquoi il a été renvoyé dans la cour d'assises. La question pour moi, ce n'était pas de savoir si on devait l'acquitter, c'était pourquoi on l'a renvoyé dans la cour d'assises. Pourquoi on a pris ce risque absolument inouï. C'est le gamin qui a été sacrifié à l'hôtel de la nécessaire obligation de trouver un coupable.
Le 7 avril 2007, après 5 jours d'audience.
4 ans après son oncle Alain Vérando, c'est donc le neveu Jérôme qui sort du palais de justice comme il y est entré, libre.
La justice acquitte Jérôme Vérando.
Christian Lebozec, quand Jérôme est acquitté, comment vous réagissez ?
Ça m'a énervé, bien sûr, quoi. C'est pas de la haine, quoi, mais je dis, merde, j'ai plus de haine à l'encontre du système judiciaire qui a fait qu'on a pu aboutir à de telles énormités sur le plan enquête et ainsi de suite.
Profond sentiment d'injustice, parce que toujours autant persuadé de la culpabilité de Jérôme. Terriblement déçu par la justice.
Je crois qu'ils n'en finissent plus de dégringoler la montagne. Il n'y a plus rien qui leur permette de s'accrocher. Et ils vont rester avec leurs interrogations, et bien évidemment avec leur colère, avec leur rage, et avec leur désespoir.
Jérôme a quitté. C'est une victoire ou un soulagement pour lui ?
Il s'effondre en larmes, et sa première réaction... c'est de remercier et d'embrasser ses avocats. On a tous les larmes aux yeux parce qu'on pense que c'est enfin fini.
Le parquet général d'Aix-en-Provence fait immédiatement appel de cette décision et adresse une demande inédite à la Cour de cassation. Pour que la vérité soit établie, la justice considère qu'il faut que les deux suspects, Alain et Jérôme Vérando, puissent être rejugés en même temps. Une requête acceptée.
Maître Martial, que pensez-vous de cette décision ?
Elle est ubuesque parce qu'on ne peut pas réunir dans une même salle, dans une même enceinte, sous un même régime, et un mineur et un majeur. C'est complètement loufoque.
C'est la construction d'une espèce de combat que l'on attendait titanesque entre l'oncle et le neveu. Et pour faire ce duel judiciaire, on s'est affranchi de toutes les règles. On a joint une affaire majeure avec une affaire mineure, ce qui ne peut pas se faire, parce que les règles sont différentes.
Pour les Lesquiera et leurs amis, c'est un nouvel espoir de confondre le ou les assassins de leur fils.
Ce procès en appel avec les deux accusés, cette fois-ci dans le box, en même temps, vous en espérez quoi ?
On espère que la vérité éclate depuis le temps, mais en sachant très bien que, malgré tout, on n'y croit pas, quoi.
Vous n'y croyez pas ?
Bah non. Je vois pas pourquoi ça réaboutit, finalement, cette fois-là, alors que les fois précédentes...
Mais là, ils sont tous les deux dans le box.
Oui, tous les deux. On s'est dit quand même.
Peut-être que l'un peut craquer.
Oui, mais connaissant leur fonctionnement aussi, si chacun veut sauver sa peau d'un côté comme de l'autre, ils vont forcément se rabibocher. Et puis, il y aura forcément acquittement au bénéfice du doute.
Le procès en appel d'Alain et Jérôme Vérando débute en novembre 2008 à Aix-en-Provence.
Je vous ai dit que j'étais innocent. Voilà, quoi, je ne comprenais pas ce que je faisais dans cette affaire.
Que ce soit Jérôme ou moi, on se battra toujours pour l'innocence.
Qu'est-ce que vous avez à dire à la famille du berger ?
Oui.
Les deux hommes comparaissent libres. Ils sont confrontés pour la première fois dans une cour d'assises. Maître Baudou, dans quel état d'esprit se trouve Alain Vérando au début de ce nouveau procès ?
Il entre fatalement comme quelqu'un qui va devoir faire triompher, faire apparaître, éclater son innocence, avec toujours le risque que l'on ne parvienne pas à convaincre.
Son neveu Jérôme est à côté de lui, sur le banc des accusés. Comment ça se passe entre eux ?
Ils savent que c'est une espèce de traquenard judiciaire qui leur est tendu aussi. Ils sont concentrés.
17 ans après le crime, Faute de preuves avérées, il ne reste que l'impression produite par les Vérand'eau pour convaincre les jurés.
Les Vérand'eau sont surpris à plusieurs reprises en flagrant délit de mensonge.
Ils vont mentir, toujours sur des points qui sont des points de détail. On peut penser au hasard de ces mensonges qu'on a le droit de s'adresser à eux en leur disant « Écoutez, vous êtes tous les deux deux gros menteurs. Deux gros menteurs !»
Quand vous les mettez face à leurs contradictions, comment ils réagissent l'un et l'autre ?
Ah ben, ils s'accrochent. Ils disent « Mais vous allez voir, les témoins vont venir l'expliquer. » Et c'est vrai que les témoins viennent, tout aussi menteurs qu'eux.
Il y a un témoignage qui va s'avérer capital, du moins pour Jérôme Vérand'eau. C'est celui de son ancienne petite amie. Qu'est-ce qu'elle dit ?
On espère la pousser dans ses derniers retranchements. Les hésitations qu'elle a marquées lors du premier procès, on les a toutes notées. Donc, on veut les reprendre et on lui pose toutes les questions. Elle est plus forte que la première fois. Elle s'accroche, elle est de plus en plus monolithique, c'est un bloc. On ne peut plus rien en faire. Et donc, elle va rester, on va rester avec ce témoignage. Jérôme était avec moi. À l'heure de l'assassinat, il est impossible que Jérôme ait été sur ces lieux-là.
Ce témoignage fait basculer le procès. L'avocat de la famille Lesquiera fait alors une déclaration totalement inattendue.
Nous disons que les parties civiles ne plaideront pas contre Jérôme Vérand'eau. C'est malheureusement le constat dramatique, déplorable, qu'il y a des moments où on ne peut plus rien faire. Donc on abandonne, la voix de la partie civile devient muette et s'enferme dans le silence contre Jérôme Vérand'eau.
Une partie civile qui se désiste en plein procès, vous aviez déjà vu ça ?
Jamais. Tous les avocats présents, qui ont une expérience incomparable à la cour d'assises, comme Lombard, comme Éric Dupond-Moretti, personne n'avait jamais vu ça.
Et pour autant, votre client n'est pas sorti d'affaire.
Absolument. La cour d'assises doit statuer sur le cas de Jérôme Vérand'eau, puisque l'avocat général ne se désiste pas de son appel. Et que donc les jurés doivent voter pour savoir si Jérôme Vérand'eau est coupable ou pas.
La partie civile se désiste dans le cas de Jérôme Vérand'eau. Mais pas dans le cas de votre client, c'est un coup dur ?
C'est un coup dur pour lui. C'est un coup prévu et assumé par la défense, qui ne s'est pas privée effectivement de dire ce qu'elle pensait de tout cela, le moment des plaidoiries venu.
L'avocat général requiert 20 ans de réclusion pour Alain Vérand'eau et l'acquittement pour son neveu Jérôme. Après 2 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. Jérôme et Alain Vérand'eau sont tous les deux acquittés.
Il était en pleurs et il a embrassé son oncle. Et pour la première fois, depuis tout ce temps, ils se parlent.
À l'énoncé du verdict, Alain Vérand'eau pleure un peu, nous regarde, et me dit, est-ce que cette fois-ci, c'est vraiment terminé ?
Quelle est la réaction de la famille de Pierre à l'énoncé du verdict ?
À l'annonce de ce verdict, un déchirement. J'entends encore l'or, je la vois, mais surtout je l'entends. C'est une plainte, mais c'est inimaginable, quoi. Et les épaules de ce grand corps de Francis qui s'abaisse. On se demande jusqu'où le chagrin que porte ce type va l'amener. Va le tirer vers le bas.
C'est même plus la déception qu'on a, mais c'est la rage au ventre, quoi. Ça symbolise vraiment le gros patatras, ce qu'on a pris sur la gueule, quoi. En se disant, ben voilà, c'est terminé, quoi.
Parce que jusqu'au bout, vous espériez que l'un ou l'autre, ou les deux, soient condamnés ?
Bon, au début, on croit à la justice, et puis après, on y croit moins, et puis après, on n'y croit plus du tout. Voilà. Mais toujours, quand même, c'est ce qui a été vraiment... admirable chez les parents de Pierre, je n'ai jamais entendu parler de vengeance.
En 2012, afin de rattraper ce fiasco judiciaire, l'État procède à différentes indemnisations. Alain Vérand'eau reçoit 192 000 euros pour dysfonctionnement de l'enquête et 10 mois passés en prison. En revanche, son neveu Jérôme, lui, n'obtient rien.
Cette indemnisation financière, c'était important pour votre client ?
C'était important pour deux raisons. D'abord, pour une raison strictement matérielle. Parce que c'est vrai que Alain Vérandeau a été détenu, même si au regard des circonstances, on peut considérer qu'il a été détenu peu de temps, puisqu'il s'agissait d'un assassinat, mais quand même, 10 mois. Et puis, si nous avons choisi aussi d'introduire une procédure en indemnisation du dysfonctionnement de la justice, c'est parce qu'il y a eu quand même dans ce dossier une accumulation d'énormités. Alors, il a reçu les sommes qu'il a reçues, qui, à mon sens, ne correspondent absolument pas aux souffrances énormes qui ont été engendrées par ce parcours judiciaire carrément atypique.
Est-ce que vous revoyez votre client Alain Vérandeau ?
Il se reconstruit en pratiquant la formule selon laquelle, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Il reste à Castellar, il sort le moins possible. Il évite toujours la famille Leschiera. Il ne veut plus entendre parler de ces années de souffrance et de ce parcours, de ce chemin de croix.
Il en veut à quelqu'un ?
Je crois qu'il en veut peut-être un peu à un système, qui est le système judiciaire, qui quelquefois fait peu de cas de l'humain.
Jérôme Vérandeau n'a absolument rien touché de la part de l'État français.
Il a demandé ?
Non, il n'a pas demandé. Il n'a pas fait, il n'a pas effectué un seul jour de détention provisoire. Et la loi ne prévoit qu'on est indemnisé que pour les détentions qu'on a effectuées. Il aurait pu attaquer l'État français pour dysfonctionnement, en indiquant que son procès avait duré trop longtemps, mais il n'a pas souhaité le faire. Il a simplement voulu récupérer ses fusils de chasse. On lui a refusé.
Maître Dupond-Moretti, que fait Jérôme Vérandeau à l'issue de ce procès ?
Jérôme, il avait une vie parfaitement organisée. Il avait une famille, une femme, des enfants, un travail. Donc il s'est à nouveau occupé de sa femme, de ses enfants et de son travail. Voilà, c'est une parenthèse terrible, maléfique, insupportable, mais qu'il a traversée. Et puis il a toujours été entouré aussi par sa famille proche, qui ne l'a jamais abandonné. Et puis... Il a repris le cours ordinaire de sa vie. Mais évidemment, tout ça, ça laisse des traces, bien sûr.
La famille Leschiera a également été indemnisée au titre du préjudice moral à hauteur de 75 000 euros. Mais les proches du berger veulent aller plus loin. Ils invoquent une faute lourde de l'État et un déni de justice. Ils réclament 225 000 euros.
Maître Collard, la famille Leschiera intente une action en justice contre l'État. Sur quels éléments ?
Sur tous les éléments du dossier qui démontrait que le travail n'avait pas été fait par la justice. Mais on pomme les scellés, on se trompe dans la numérotation, on a un expert qui finit avec un entonnoir et des menottes, on a un procureur qui vient avec du retard et puis qui est remplacé. Moi, j'ai envie un jour de faire un livre sur ce dossier parce que on nous serine avec l'indépendance de la justice. Mais son efficacité, quand même, c'est une question qu'on peut se poser aussi.
Comment la famille réagit lorsque le tribunal de Paris rejette sa demande ?
Il savait que ça serait difficile pour la justice de reconnaître ses erreurs. Hein, parce que là, quand même, là, c'est pas la petite erreur, quoi. C'était vraiment le cumul. Bon. Et ça fait partie du total écœurement, voilà.
Aujourd'hui, Christian Lebozec poursuit seul le combat judiciaire, au nom d'une promesse faite à son ami Pierre. Il estime que certains éléments du dossier n'ont jamais été exploités pour connaître la vérité.
La moto de Pierre n'a pas été expertisée, la parka qu'il portait n'a pas été expertisée, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que j'imagine, avec toute la rage qu'ils avaient à l'attendre à la batte, ils ont très bien pu lui cracher dessus lorsqu'il était à terre. Et puis, il y a un fusil calibre 16 qui a été trouvé dans le village ou dans les parages, mais suffisamment. Depuis, ça fait 3-4 ans. Donc, il y a des choses qu'on peut retrouver. Et tout ça, c'est au labo, là, à Marseille, quoi.
L'affaire pourrait être définitivement close en 2018 à cause du délai de prescription. Le meurtre de Pierre Leschiera resterait alors à jamais impuni.
Aujourd'hui, les Leschiera ne veulent plus s'exprimer publiquement sur cette affaire. Pour quelle raison ?
ils préfèrent. Échanger entre eux, partager le souvenir d'un garçon brillant, juché sur sa moto, partant conquérir les flancs de la montagne avec son beau troupeau, trônant au milieu de ce troupeau, et puis qu'on leur foute la paix.
Ils ne croient plus en la justice, aujourd'hui ?
La justice ? Ils ne veulent plus y participer de quelque manière que ce soit. Ils ont toujours l'impression d'avoir été considérés comme des figurants. Ils sont des figurants, ils sortent du champ de la caméra, ils sortent du théâtre, ils sont derrière les coulisses. Top. Terminé. Silence.